sur VO1 Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour recueillir des commentaires de nos auditeurs afin de savoir ce qu'ils pensent de l'ONU. Une question qui revient annuellement à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. En 2020, la majorité des dirigeants n'ont pas fait le voyage à New York à cause des restrictions liées à la pandémie. Cette année, de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont au rendez-vous pour s'exprimer à la fameuse tribune de l'ONU. Alors c'est en effet, on a un petit peu plus de monde, mais ça reste une formule hybride. Alors la question c'est, qu'attendez-vous de ces rencontres annuelles? Une question qu'on vous pose donc religieusement tous les ans. Alors ce rendez-vous onusien est-il essentiel pour l'Afrique selon vous? Et quel est le poids politique de l'ONU? Aujourd'hui, nous avons Marie-Paul Awa, qui est à Kisangani, en République démocratique du Congo, qui pense que les attentes sont moins porteuses pour l'Afrique en général, et la RDC en particulier. Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, bonsoir madame, je vais bien, merci, et vous-même?
C'est formidable, on va très bien, à vous la parole.
Oui madame, comme je l'ai dit de manière laconique, c'est mon commentaire. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre vraiment à beaucoup de choses dans ces sommets-là, parce que ces sommets relèvent bien des politiques ou des manières où l'Assemblée a tenu ces réunions, a programmé ces réunions. Alors, la mobilisation des dirigeants africains, ces dirigeants sont mobilisés parce que ils veulent bien que les grandes puissances puissent leur venir en aide. Mais on ne peut pas, dans ce genre de sommet, aller avec des discours de victimisation, des discours de demande, parce que là, nous sommes dans une organisation internationale. Et dans une organisation comme l'ONU, ce sont des pays membres qui contribuent. Mais la vision, la manière dont les dirigeants africains passent de l'ONU et se soustraient dans cette organisation, ils se présentent comme s'ils ne sont pas membres. Ils laissent plutôt aux pays puissants, aux pays de grandes économies, de pouvoir justement leur venir en aide. Ce qui est vraiment une façon de ne pas bien comprendre le fonctionnement d'une organisation internationale. Alors, nous avons entendu des discours. Et lorsque vous analysez tous ces discours, ce sont des discours qui demandent tout simplement, comme je viens de le dire, aux grandes puissances de pouvoir venir en aide. Donc, avec cette façon de se comporter des pays africains et avec une politique de demande, vous savez, celui qui demande a toujours sa main au-dessous par rapport à celui qui donne. Et c'est cette situation qui ne permet pas aux pays africains de devenir aussi responsables sur la scène internationale, de pouvoir mettre en place de grandes politiques pour pouvoir justement essayer de booster un peu d'une manière générale les pays africains. Parce que si nous voyons, depuis que ce pays africain, qui est d'ailleurs majorité au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Afrique a 54 pays. Mais si nous estimons, par rapport aux actions que ces pays africains posent au sein de l'Assemblée générale, au sein de l'ONU,
merci
les pays
beaucoup,
africains ne pèsent pas.
Marie-Paul,
ces pays ne pèsent pas.
Marie-Paul Awa, on a des auditeurs qui attendent. Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous dit à très bientôt. On a Toguiam Nanadoum qui est à N'Djamena et qui pense que la politique onusienne n'est que théorique en Afrique car elle agit souvent après l'action, dit-il, et cela n'aide pas l'Afrique dans sa course de développement. Comment allez-vous ce soir?
Oui, bonsoir à vous et à toutes mes civilités, à tous les auditeurs qui nous écoutent partout dans l'Afrique. Je disais que déjà la politique onusienne n'aide pas le développement d'Afrique. pour des simples raisons que l'ONU agit souvent agit après l'action. Voilà ce qui est bizarre. Et s'il faut comprendre aujourd'hui, certains chefs d'État africains se pointent devant l'ONU pour parler de ces choses. À mon niveau, c'est des paroles et c'est rien que théorique. Pratiquement, il n'y a rien. Ça ne va pas carrément en Afrique. Et là, cela montre déjà l'irresponsabilité de nos chefs d'État africains face maintenant aux problèmes que mine l'Afrique aujourd'hui. Comment peut-on comprendre que déjà on quitte de coup d'État en coup d'État et les gens passent de modification de constitution en modification et les gens ne réagissent même pas? Et lorsque c'est arrivé maintenant pour des coups d'État et autres, nos chefs d'État africains, surtout la CEDEAO et l'Union africaine, personne n'ose condamner ces choses-là. Et aujourd'hui, ils prennent le plaisir maintenant de parler de toutes ces choses-là devant maintenant l'ONU. En réalité, leur séjour là-bas, leur présence, ça va être une honte pour l'Afrique. Ils ne doivent même pas peut-être avoir la parole devant le Parlement onusien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils prennent toujours le devant pour raconter des mots et puis dire des choses pour se maintenir. Et l'ONU doit aussi prendre une décision, une sanction contre ces gens-là parce que c'est une mission qu'on les a donnée et ils montrent leur incapacité face à ça. Donc, à mon niveau, je crois que l'assise onusienne, elle n'est que rien d'autre que la pratique et l'autre, la théorie, et ça n'aide même pas. Si telles que les choses vont continuellement, ça veut dire que l'Afrique va se retirer maintenant de cette organisation parce qu'elle ne bénéficie jamais. Quand quelqu'un modifie la constitution, il faut lui donner maintenant des sanctions.
Un et grand merci, Togiam Nanadoum. Un grand merci pour votre témoignage. On vous dit à très bientôt. On a Bourayma Oubda qui est en ligne au Burkina Faso et qui souhaiterait que l'ONU soit plus indépendante et que les objectifs fixés par cet organe planétaire soient plus une réalité. Comment allez-vous?
Oui, ça va, madame.
Formidable, on vous écoute.
Bon, en fait, pour ma part, moi, je contiens sur les objectifs de l'ONU. Puisque l'ONU même devrait être un plus indépendant l'organe se trouve là. Bon, je me demande pourquoi en français affirmer que l'ONU est une institution qui devrait s'occuper des droits des hommes. Ou même, je veux dire, des droits planétaires. À ce moment où nous, les Africains, on subit toujours l'oppression de nos pays colonisateurs. Donc, et en plus aussi, l'ONU, je peux dire même l'ONU même a été pour dominer nous les faire. Ce n'est même pas pour nous protéger, mais l'objectif seulement là, c'est pour nous dominer. Voilà.
Un grand merci. Merci. Bourayma Oubda, pour votre réflexion sur cette question. On a Eric Chiasouma qui est en Afrique du Sud et qui pense que l'organisation doit améliorer son système de travail, surtout, dit-il, les questions de gestion des conflits armés dans le monde. Eric, comment allez-vous?
Oui, je me porte aussi, je me porte bien.
On vous écoute.
Oui, bon, d'abord je dois commencer. J'estime que cette rencontre annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies est une bonne chose pour permettre à certains leaders de parler des événements du moment qui fragilisent ou déstabilisent le monde. Mais par rapport, je dois pas plus me concentrer sur mon continent, l'Afrique, surtout sur les questions armées. Donc l'ONU les Nations Unies doivent vraiment améliorer leur système de travail, surtout sur les questions des conflits armés dans le monde. Pourquoi? Parce que il y a par exemple des conflits, par exemple à l'est de mon pays. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que fait l'ONU là, parce que chaque jour il y a des morts et il y a toujours des conflits. Même avec d'autres pays voisins, on ne sait pas les régler. Mais il y a la présence de casques bleus de la MONUC. On se pose des questions. Quel est leur rôle? Voilà pourquoi je pense qu'il est temps pour les Nations Unies de faire des amendements sur certains de ces tests qui régissent cette organisation pour permettre à cette organisation d'être de faire face aux réalités mondiales du moment. Parce que lorsque souvent vous posez des questions à certains personnels des Nations Unies, ils vont nous dire que c'est pas le mandat de la MONUSCO vu certaines réalités qui se passent au pays. Mais pourquoi c'est là? Ils sont là présents, pourquoi? Il y a plusieurs questions qui se posent. C'est comme si apparemment ils ne jouent pas leur rôle. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des amendements pour que des amendements par rapport aux réalités du monde, pour que l'Organisation des Nations Unies puisse bien jouer son rôle dans le monde, face aux réalités du moment.
Un grand merci, Eric, un Congolais en Afrique du Sud. On vous dit à très bientôt. Avant de prendre un prochain auditeur, on va lire quelques commentaires de nos Facebookers, celui de Serge Nimou Bonin. Il dit l'ONU n'a plus d'utilité dans le monde. Le monde a besoin d'un arbitre fort. Actuellement, les droits humains sont encore bafoués. La minorité est persécutée sous le regard impuissant des nations. C'est le commentaire de Serge. Il y a celui de Ben. Ben, il dit, on n'attend rien du tout. Rien ne va s'améliorer dans ce monde, pense-t-il. C'est un camion en pleine vitesse sans frein dans une descente. Alors, il n'est pas très optimiste. Alors, justement, la question, c'est ça, que faire, hein? Quelles sont les solutions, sachant effectivement que l'ONU est censée être là pour les trouver. Il y a le commentaire de Jackson Marafa. Jackson Marafa, je le cite, il a écrit « Je crois que l'ONU a échoué dans sa mission. C'est une statue, un monument aux USA. Je crois qu'elle a changé son statut de maintenir la paix pour devenir un spectateur des acteurs déstabilisateurs de la paix. La guerre en RDC, en Centrafrique, en Syrie, les femmes violées. Où est cette ONU ?» interroge Jackson. On a un auditeur en ligne. Nibi Sali, qui est au Tchad. Comment allez-vous ?
Très bien, bonsoir madame.
C'est un plaisir de vous entendre, on vous écoute.
Merci. Bon, à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée des Nations Unies qui a eu lieu à New York en présence de plusieurs chefs de l'État et de diplomates, il y avait eu quelques présences des autorités africaines. Monsieur Félix Tshisekedi, actuel président de la République du Congo, président en exercice de l'Union africaine, il a pris parole et il était bref sur ses paroles. Il a sollicité le soutien de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et nous avons pu constater, nous tous, ces derniers temps, il y avait eu la multiplication des attaques récurrentes des djihadistes un peu partout en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, y compris le Maghreb de l'autre côté. C'est ainsi qu'il refusait catégoriquement que l'Afrique ne doit pas servir comme une base arrière pour le terrorisme international. De préférence, l'ONU a le droit et le devoir de soutenir le continent dans sa lutte contre le terrorisme. Et Paul Kagame, de l'autre côté, il était bref sur son discours que s'il y avait un travail à faire, vraiment, c'est de lutter contre la pandémie qui est en train de gangréner toute l'Afrique. L'ONU seul, il ne pourra pas tout faire. De préférence d'autres organisations telles que le FMI, la Banque centrale européenne, la Banque mondiale, la CEDEAO, le CEMAC doivent participer et soutenir tous ces pays pauvres qui ont des difficultés financières à sortir de cette crise définitivement et une fois pour toutes et durablement. Merci, madame.
Un grand merci, Nibi Sali, à partir du Tchad. On a Kotsebo qui est à Niamey qui nous a appelé. Kotsebo, comment allez-vous?
Oui, bonsoir madame.
Merci beaucoup de nous appeler pour participer à ce show. On vous écoute.
Donc, finalement, c'est vrai, l'ONU, tout le monde se plaît que l'ONU ne fait pas le devoir, mais notre monde est confronté à double problème et chacun doit refuser à son côté. Maintenant, moi, j'ai une solution à proposer à l'ONU. Puisque au niveau de l'ONU, c'est le président qui part pour expliquer. Mais pourquoi pas l'ONU donne une possibilité pour organiser ce qu'on appelle comme forum de la paix mondiale. On peut faire ça comme le football, comme on fait, on peut choisir un pays chaque année, on prend au moins 32 jours comme ça pour organiser un forum de la paix mondiale pour que toute la population civile puisse s'expliquer il y aura peut-être les observateurs qui ont le pouvoir de décider ou observer et faire les analyses pour voir quelles solutions qu'il faut mettre en place pour pouvoir équilibrer notre monde. Parce que s'il y a des conflits, c'est que quelque part, il y a des problèmes qui sont cachés à l'intérieur de chacun et chacun les voit. Donc l'ONU doit revoir sa position. Puisqu'à chaque année, on fait la même chose. 76 ans aujourd'hui, c'est le même conflit qui s'impose au sein de la planète Terre. Donc moi, je pense qu'il est mieux de changer de méthode. Chaque année, on fait un forum de la paix mondiale. On peut choisir un pays et se le faire. Tout le monde s'exprime librement. La population de la planète a pu s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est le président qui s'exprime. Chaque président va dire ce qu'il pense. Mais est-ce que la population en question arrive à s'expliquer? Non, c'est le président qui s'explique. Mais la population ne s'explique pas. Donc, parfois, il y a des problèmes qui sont concentrés dans les États. Certains ne connaissent pas. C'est quand ça se répète, c'est quand le problème prend l'ampleur, que ça crée le désordre. En ce moment-là, l'ONU vient intervenir. Donc, si l'ONU reste comme ça, il va toujours saler les mains, il va toujours aussi saler les mains de ces différentes organisations qui tournent autour pour résoudre le problème de la planète. Donc, moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'organiser le forum de la paix mondiale.
Merci beaucoup.
Année, pour que tout le monde puisse participer.
Un grand merci, Côte Sébou. À partir de Niamey, revenez participer à notre émission. Bien entendu, avant de prendre d'autres auditeurs, on poursuit la lecture des commentaires sur le Facebook de VO Afrique, notamment celui de Saint-Douce à nous, qui a écrit, je le cite, « Nous ne savons plus à quoi sert l'existence de l'ONU. Nos chefs d'État africains dilapident juste nos ressources financières en s'y rendant et au final aucune répercussion positive sur le continent, pense-t-il. Des discours vides qui n'ont rien à voir avec le quotidien des peuples. L'ONU est une coquille vide. C'est la réflexion de Saint-Douce à nous, celle de Las Gasek, que je cite maintenant. Alors il dit, ce que nous attendons de l'ONU, c'est qu'elle s'implique davantage dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. Par ailleurs, l'organisation onusienne devrait adopter une attitude beaucoup plus ferme par rapport aux coups d'État en Afrique, plutôt que de se contenter de condamnations platoniques, dit-il. On a également la réflexion de Franck Makwebo, qui pense que l'ONU, c'est l'espoir déçu des petits. Adamou Koumaré a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, « Ce qui me préoccupe, dit-il, c'est le cas du Mali. Comme le Premier ministre Choguel Maïgal a précisé, il faut que cette fois l'ONU prenne en compte l'avis des autorités maliennes et réoriente sa mission. » Donc effectivement, il s'est exprimé il y a quelque temps, hein, c'était bon, sur l'affaire Wagner. On a aussi le souci des élections qui doivent se dérouler en février, qui pour certains risquent d'être en retard. Et Assimi Goïta s'est aussi exprimé à l'occasion de l'anniversaire d'indépendance du Mali ce 22 septembre. Et donc il poursuit Amadou Koumaré en disant des pays qui s'affirment. Ah non, ça c'est pas lui, excusez-moi. Alors on a également la réflexion de John Kimbaku qui a écrit sur notre Facebook, je le cite, avec des délégations réduites, Tshisekedi a amené une délégation de 123 personnes. Donc en fait, c'est une interrogation qu'il pose. Hein. Il se pose la question, il n'est pas le seul, hein. Il y a au moins trois auditeurs qui dénoncent le fait que le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo aurait amené une délégation de 123 personnes. Des informations que nous n'avons pas pu vérifier. Mais un ministre a justifié le nombre élevé en parlant des fonctions de chacun, dont notamment le personnel de sécurité. On a un auditeur en ligne, Charles Bazema. Charles, comment allez-vous?
Ça va, Nathalie, c'est vous?
Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes au Burkina Faso et on vous écoute.
Je vais un peu contredire le dimanche. Parce que je vois qu'il met tout sur le lit. Il n'est pas responsable de notre souffrance en Afrique. Et puis l'homme aussi n'est pas responsable aussi de notre malheur. Voilà, si vous voyez que l'ONU ne dit pas des problèmes africains, c'est-à-dire nous-mêmes africains, nous sommes divisés. Il y a aussi une hypocrisie vis-à-vis de certains pays quand ils se retrouvent en Europe. Voilà. Voilà, voilà, actuellement, il se discute à cause d'un siège à l'Assemblée de l'ONU. Est-ce que ça, on doit faire des débats? Il n'y a pas de débat. Vous devez vous attendre contre un pays. Soit c'est le Sénégal, soit c'est le Nigeria, même si c'est Djibouti. L'essentiel est qu'il apporte votre voix devant le monde entier. Il y a si ça aussi, les gars, ça n'attend pas. Et après, on sort pour dire que les Européens sont comme ça, sont comme ça. Voilà l'affaire Wagner. Quand la France est sortie pour parler, voilà, l'Union européenne a mis voilà, a soutenu la France. Voilà, tout dit, non, ils ne sont pas d'accord avec le Mali. Mais quand les Européens, la France, l'Angleterre et l'Amérique sont venus bombarder la Syrie, c'est quel pays, ou bien c'est quelle institution, par exemple, l'Union africaine, ou bien la CEDEAO, ou bien je ne sais pas quoi, et c'est quelle organisation africaine qui a condamné l'ajustement des Européens? Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, arrêtez un peu d'accuser les Blancs. Si nous-mêmes, on ne peut pas s'attendre, ce n'est pas quelqu'un qui va s'attendre pour nous. Voilà actuellement après coronavirus. Là. Voilà. Les pays européens se sont battus entre chacun veut donner à sa population. Nous, en Afrique, c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Donc arrêtez un peu d'accuser les Blancs. Je ne suis pas avec les Européens, mais c'est les faits. Voilà. C'est ce que nous vivons en Afrique, que ça fait nous dire. Alors, dans la sous-région, on n'est pas de libre circulation, etc. Actuellement, un Burkinabé ne peut pas se dire qu'il se sent mieux en Guinée, un Ivoirien ne peut pas se dire qu'il se sent mieux au Congo, un Congolais ne peut pas se dire qu'il se sent mieux en Afrique du Sud. Voilà. Donc, vous parlez d'union. Entre nous-mêmes, on est divisé. Vous voulez que ces Européens ou bien ces Américains asiatiques se battent à notre place. Ils ne peuvent pas se battre à notre place. Voilà. Nous devons nous mettre ensemble. Voilà, et de voir un objectif, viser cet objectif, aller jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Charles Bazema. Un grand merci. On a Anissé à vous, Guy Rémy, qui attend donc de pouvoir parler, qui est au Burundi. Bonsoir à vous, la parole.
Bonsoir, Zéro Afrique.
On vous écoute.
La mission et le travail des nations unies sont de par les objectifs et principes énoncés par la charte politique. L'ONU constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leurs
positions. Je m'excuse, Anissé, je suis vraiment désolée, on a une ligne très très mauvaise, mais ce que je vais faire, c'est que je vais lire votre commentaire. Hein. Anissé, donc, qui a écrit sur le Facebook de La Voix de l'Amérique, je le cite, « La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa charte fondatrice. En raison de la pandémie de Covid-19, le débat est mené cette année de manière hybride autour des thèmes importants, la situation actuelle en Afrique, particulièrement en Guinée et au Mali en matière de paix, de sécurité, de développement socio-économique. Économique a permis d'engager une réflexion profonde sur cette problématique. Et il termine en disant « Le poids politique de l'ONU aujourd'hui est quasiment nul et son secrétaire n'exerce plus aucune influence sur la scène internationale ». Donc c'est le point de vue de Anissé. Il y a également celui de Eshima Bakunzi, en fait, qui ne dit rien sur le sujet, mais qui dit « Bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique ». C'est très gentil, Eshima. Inlibé Goïmi a écrit sur notre Facebook que cette organisation, selon lui, n'aide jamais les pays africains dirigés par les dictateurs à s'en débarrasser, dit-il, et elle se permet même de leur réserver des places lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le commentaire de Inlibé. Asmaïlou pense que l'ONU joue un rôle politique immense, mais contre son continent. Koku, il dit que quand la dictature. Alors, coucou William dit « Quand la dictature assassine l'opposition, il y a de quoi s'inquiéter ». Jonas Sipadi dit qu'il faut que l'ONU améliore ses missions dans le but d'aider les États africains et d'être sincère dans tout ce qu'elle fait. Tierno Diallo dit que les Nations Unies sont devenues aujourd'hui une véritable dictature des grandes puissances. Il dit « Les États africains vivent au sommet des Nations Unies ». Avec des intentions d'être aidé par les grandes puissances qui contrôlent l'ONU, selon lui. Voilà pour cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de production, à Cheikh Tiro pour les appels téléphoniques. C'était Nathalie Barge avec vous. À très bientôt. Bonsoir et bon courage.